comme au bleu faisait le printemps, ce serait un jeu d'enfant de chanter la vie, l'amour dans la nuit, ce monde rêvé pour nous. Mais écrire des vers, le cœur à l'envers, ça je n'en ai pas le goût. Si tes yeux candides se posaient sur moi, comme tout est vide sans toi. Si j'avais ma tête et pas ce caillou, mais ce serait bête comme chou. D'écrire un poème ou mille je t'aime, jouerais sans dessus.
Bonjour à tous, c'est le temps des poètes numéro 3. Au programme de cette troisième émission, petite histoire de la poésie. Comme tous les mois, les mouvements poétiques, aujourd'hui la Pléiade, portrait d'un poète, Agrippa d'Aubigné. Nous allons mettre en avant une chanson, Le plat pays de Jacques Brel. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, l'actualité de la poésie. Puis un extrait d'un entretien avec Elsa Triolet, ça commence mal, et Aragon. Et vous allez voir que celui qui parle le plus, ce n'est pas celui qu'on croit. Nous terminerons par la lecture de quelques poèmes, et puis nous terminerons par la rubrique « Ça ressemble à de la poésie » avec des paroles enregistrées dans la rue. Bonne poésie à tous! Histoire de la poésie. Petite histoire de la poésie. Nous sommes au XIe siècle et la femme prend une place de plus en plus grande dans la poésie. Chrétien de Troyes fait l'honneur à la poésie amoureuse. Comme sur son cou me portait, entre mes cuisses il entrait. Si vous voulez que plus en face, je m'y tiens prête à cette place, c'est quand même osé pour l'époque. Les poésies, c'est carrément de la poésie érotique. Les poésies en langue d'Oïle rencontrent les poésies en langue d'Oc, dont les représentants sont Guilhem de Poitiers, nous sommes au XVe siècle, Bernard de Ventadour. C'est l'époque de l'amour courtois qui remplace un petit peu l'amour de Dieu. Les poètes commencent à s'affirmer. On oublie Dieu, on le met de côté. Le nouveau maître des poètes, c'est l'amour. Guilhem de Poitiers, je ferai un vers sur pur néant. Aucassin et Nicolette, c'est l'époque d'Aucassin et Nicolette et le roman des amours contrariés. Le roman de Renard est une mosaïque de menus fabliaux rassemblés au début du XIIIe siècle La société féodale est ridiculisée, la poésie commence à être subversive. C'est vraiment le début de la poésie au XIe siècle, et quelquefois grivoise. On est loin des poésies religieuses du début. Je pense que cela peut plaire aux éditeurs de Radio Libertaire. Oui, je vous rappelle que nous sommes toujours sur Radio Libertaire et nous écoutons l'histoire de la poésie, 89.4. C'est le moment de parler d'un poète dont on ne sait presque rien. Il se maria deux fois à Paris, la deuxième en 1261, et mourut dans cette ville en 1280. Le premier grand poète de notre langue, c'est lui. Pas de courtoisie, peu d'allusion à l'amour, mais un verbe énergique et réaliste. Si Rudebeuf, car c'est de lui dont il s'agit, Rudebeuf rudement rime, et si rudesse en sa rime a, prenez garde qu'il arrima. Rudebeuf, qui rudement œuvre, est aussi rude comme bœuf. Le mot rude est employé plusieurs fois et l'époque était très rude. La rigueur des temps, pour les pauvres et les obscurs, est dénoncée au nom de tous et c'est nouveau. La dénonciation de l'injustice par la poésie, c'est nouveau aussi. Puisque avant, les poésies étaient plutôt des poésies religieuses. Que sont mes amis devenus, que j'avais si près tenu et tant aimé. Ces vers ont été chantés par John Baez ou Léo Ferré. Rudebeuf a inspiré Villon, Brassens, le poète qui ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire mais qui parle de l'universelle condition, reste moderne et intemporelle. Je vous propose d'écouter l'interprétation de Léo Ferré.
C'est le XIIIe siècle. XIIIe siècle, il avait des problèmes d'argent et de femmes, ce qui se rejoint assez facilement. Il était pauvre, il s'appelait Rudebeuf, pauvre Rudebeuf. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte. Devant ma porte, les emportant. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche, feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre. Au vent d'hiver, ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte. En quelle manière, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu. Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent. Ils ont ôté. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Mémoire m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droit au cul qu'ambise vente, le vent me vient. Le vent m'évente, l'âme est morte. Ce sont amis que vent emporte, ils ventaient devant ma porte les emportes. L'espérance de lendemain. Ce sont mes fêtes.
Les mouvements poétiques, la Pléiade, symbolisé par Dubelet et Ronsard, est le courant poétique dominant à la Renaissance. Ce groupe de poètes se donne pour but de renouveler la poésie du Moyen-Âge en rejetant les formes médiévales. C'est l'apparition du sonnet, en enrichissant la langue française et en étant plus accessible. Les auteurs importants sont Joachim Dubelet, Pierre de Ronsard, Clément Marot. Le XVIe siècle est le siècle des progrès techniques et scientifiques, des grandes découvertes avec Christophe Colomb, Magellan. En découvrant de nouveaux peuples, les intellectuels remettent en question nos propres normes morales. C'est aussi la révolution copernicienne, l'héliocentrisme, on comprend que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, et les premières dissections. On s'aventure à l'intérieur du corps humain, un contexte général qui bouleverse nos certitudes. Tous ces progrès invitent la population du XVIe siècle à se tourner vers la raison et la rationalité. Le savoir et la connaissance deviennent vraiment très importants. C'est l'engouement aussi pour l'Antiquité. On veut rompre avec le Moyen-Âge qui a une très mauvaise image, avec les guerres et les maladies. On cherche donc à retrouver le lustre, la grandeur, la prospérité de l'Antiquité. On se met à redécouvrir les textes antiques et à vouloir les imiter. La poésie, la philosophie, le savoir de façon générale deviennent de la plus haute importance. L'érudition devient un but à atteindre. C'est l'invention de l'imprimerie grâce à Gutenberg qui a inventé les machines pour imprimer en série. Toutes ces connaissances vont pouvoir se transmettre beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle. Les livres deviennent plus accessibles, donc on peut se cultiver plus facilement. Ce sont les idées humanistes qui apparaissent. Dans ce contexte de renouveau, les idées et valeurs humanistes émergent. Les humanistes choisissent de placer l'homme au centre de leur réflexion, réfléchir sur la morale, la liberté, l'égalité, faire l'éloge du savoir, se cultiver pour devenir plus tolérant, plus juste et plus ouvert d'esprit. Parmi les écrivains humanistes, il y a Erasme, Montaigne, Rabelais ou encore le poète Pierre de Ronsard. la poésie humaniste et la valorisation de la langue française, chez les poètes notamment, ceux de la Pléiade comme Joachim du Bellay, la volonté est d'œuvrer au renouveau de la langue française à travers leur écriture. Depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français est devenu la langue officielle, ce n'est plus le latin. Les auteurs invitent leurs confrères à l'utiliser pour écrire de beaux poèmes et associer ainsi la langue française à la belle littérature. La forme fréquemment utilisée est le sonnet, un poème composé de deux quatrains, et de deux tercets. Voici un extrait de poème de du Bellay. Le poème s'intitule « Baiser ». Quand ton col de couleur rose se donne à mon embrassement et ton œil languit doucement, d'une paupière à demi-close, mon âme se fond du désir dont elle est ardemment pleine et ne peut souffrir à grand-peine la force d'un si grand plaisir. Puis quand s'approche de la tienne ma lèvre et que si près je suis que la fleur recueillir je puis, de ton haleine ambroisienne, quand le soupir de ces odeurs ou nos deux langues qui se jouent, moitement folâtre et noue, évente mes douces ardeurs, il me semble être assis à table avec les dieux. Il me semble être assis à table avec les dieux. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil du poème, mais c'est pas grave, je vais retrouver la ligne. Et boire à longs traits savoureux, avec les dieux tant je suis heureux, et boire à longs traits savoureux, leur doux breuvage délectable. Si le bien qui au plus grand bien est plus prochain, prendre on me laisse, pourquoi me permets-tu, maîtresse, qu'encore le plus grand soit mien ? As-tu peur que la jouissance d'un si grand heur me fasse Dieu, et que sans toi je vois au lieu d'éternelle réjouissance, belle, n'aie peur de cela, partout où sera ta demeure, mon ciel jusqu'à temps que je meure, et mon paradis sera là.
La mer m'a donné sa carte de visite pour me dire je t'invite à voyager. J'ai de grands chevaux à la crinière blanche, et puis j'ai dans la manche tant de bateaux. J'ai du vent qui enivre ceux qui veulent me suivre dans l'illusion facile de la douceur des îles, terres inconnues, où les filles les moins sages vivent sur le rivage. La mer m'a donné une carte du monde mystérieuse et ronde, comme un galet. Mais je t'ai trouvé étendu sur le sable, fragile et désirable. Je t'ai désiré, plus belle qu'un voyage, plus douce et plus sauvage, plus calme et plus cruelle que la mer qui m'appelle dans tes yeux ouverts. Le ciel était bleu tendre, m'a laissé te prendre comme on prend la mer, comme on prend la mer, comme on prend la mer.
Portrait portrait de poète Théodore Agrippa d'Aubigny, né d'Aubigny le 8 février 1552 au château de Saint-Maury, près de Pont, et mort le 9 mai 1630 à Genève, est un homme de guerre, écrivain controversiste et poète baroque français. Il est notamment connu pour les tragiques poèmes héroïques racontant les persécutions subies par les protestants. Calviniste intransigeant, il soutient sans relâche le parti protestant, se mettant souvent en froid avec le roi Henri de Navarre, dont il fut l'un des principaux compagnons d'armes. Après la conversion de celui-ci, il rédige des textes ayant pour but d'accuser Henri IV de trahison envers l'Église. Chef de guerre, il s'illustre par ses exploits militaires et son caractère emporté et belliqueux. Et pourtant, il fut poète. Quelque temps après la Saint-Barthélemy, il retourne à la cour de France, où il se lie avec le roi de Navarre, futur Henri IV, et devient son écuyer en août 1573. Il a 21 ans. À cette époque, Henri de Navarre est assigné à résidence à la cour et placé sous une étroite surveillance. À la cour, où il côtoie les plus grands, il fait figure de courtisan accompli. Apprécié pour son intelligence et son esprit mordant, il aurait fait partie de l'Académie de musique et de poésie qui siège au Palais du Louvre. Amateur de mascarade et de joute, il invente des divertissements de cour et se fait connaître comme expert en magie. C'est aussi un querelleur courant sans cesse après les duels. Le 26 juin 1574, il assiste à l'exécution du comte de Montgomery sur la place de Grève, qui le salua, lui et Fervacques, avant de mourir. Aubigny retourne à la cour de Navarre en 1579. En 1582, il est au plus mal avec la reine Marguerite de Valois, qui demande à son époux de l'éloigner. Ses relations avec Diane d'Andouin, maîtresse du roi, ne sont pas meilleures. En 1588, il déconseille au roi de se séparer de son épouse légitime pour épouser sa maîtresse. Entre-temps, il a épousé Suzanne de Lusignan de Lezay, au château de Bougoin à la Crèche, en 1583. Après l'assassinat du duc de Guise, en 1588, il reprend part aux combats politiques et militaires de son temps. Il est alors le représentant de la tendance dure du parti protestant, les fermes, et voit d'un mauvais œil les concessions faites par le chef de son parti pour accéder au trône. Comme de nombreux protestants, d'Aubigny ressent l'abjuration d'Henri IV en 1593 comme une trahison. En 1611, à l'Assemblée des Églises protestantes de Saumur, d'Aubigny, élu pour le Poitou, ridiculise le parti des prudents dans le caducé ou l'ange de la paix. Il semblerait que c'est à cette période qu'il se tourna vers l'écriture de ses œuvres, et en particulier des tragiques. Mais ce n'est pour lui qu'un autre moyen de prendre les armes en multipliant les pamphlets anticatholiques et les attaques polémiques contre les protestants convertis. Refusant tout compromis, d'Aubigny, Agrippa est contraint de quitter la France en 1620 après la condamnation de son histoire universelle depuis 1550 jusqu'en 1601 par le Parlement. Il se retire alors à Genève où est publié l'essentiel de ses œuvres. Il y épouse en 1623 René Burlamaqui, petite fille du Lucquois Francesco Burlamaqui. Agrippa d'Aubigny meurt à Jussy le 9 mai 1630 à l'âge de 78 ans.
Que sais-tu des plus simples choses? Les jours sont des soleils grimés. De quoi la nuit rêve les roses? Tous les feux s'en vont en fumée. Que sais-tu du malheur d'aimer? Je t'ai cherché au bout des chambres où la lampe était allumée. Nos pas n'y se n'est pas ensemble, ni nos bras sur nous refermés. Que sais-tu du malheur d'aimer? t'ai cherché à la fenêtre. Les parcs en vin sont parfumés. Où peux-tu bien être? À quoi bon vivre au mois de mai? Que sais-tu du malheur d'aimer? Que sais-tu de la longue attente et ne vivre qu'à te nommer? Dieu toujours même et différente. Et de toi, moi seul à blâmer, que sais-tu du malheur d'aimer? Que je m'oublie et je demeure comme le rameur sans ramer. Sais-tu ce qu'il est long qu'on meure à s'écouter se consumer? Connais-tu le malheur d'aimer?
Méconnu de ses contemporains, on vient d'écouter une interprétation de Jean Ferrat, bien sûr. Méconnu de ses contemporains, Agrippa d'Aubigné est redécouvert à l'époque romantique, notamment par Victor Hugo, puis par le critique Sainte-Beuve. En 1976, dans une chanson polémique et anticolonialiste, Un air de liberté, Jean Ferrat, qu'on vient d'écouter, le mentionne. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps, votre cause déjà sentait la pourriture. Son œuvre, la plus connue, est son recueil, Les Tragiques. Mais d'Aubigné n'est pas l'auteur d'une seule œuvre. Le Printemps est un recueil de sonnets amoureux, de stances et d'odes qui reprend la lyrique pétrarchiste de Pétrarque sur les tons opposés de la rage, du désespoir et d'une fantaisie plus légère. Le premier recueil de sonnets du printemps, L'Hécatombe à Diane, est dédié à Diane Salviati, jeune fille qu'il aimait et qu'il n'a pas pu épouser à cause de la différence de religion. À la fin de sa vie, les petites œuvres Meslay associent des méditations sur les hommes et des poésies religieuses. L'essentiel de son œuvre est polémique. D'Aubigné, engagé dans les combats de son époque, cherche ainsi à discréditer les vanités de la cour royale et la religion catholique dans la confession du sieur de Sancy et les aventures du baron de Fénestre. Son histoire universelle est aussi, malgré son titre, une œuvre engagée destinée à justifier l'autonomie politique et militaire des protestants français. Il publie aussi de nombreux opuscules politiques. Il est l'inventeur de la formule qu'il met dans la bouche d'Henri IV sur le champ de bataille d'Ivry, « Ralliez-vous à mon panache blanc », qui est ensuite complété par Ardouin de Péréfix, puis par Voltaire. À la fin de son existence, il écrit ses mémoires sous le titre « Sa vie à ses enfants », Constant, Marie et Louise, pour leur montrer sa gloire et ses fautes et leur être par là même un exemple profitable. Sans titre, puisque le corps blessé, mollement étendu sur un lit qui se courbe au malheur qu'il supporte, me fait venir aux ronges et goûter mes douleurs, mes membres jouissaient du repos prétendu, tandis l'esprit lassé d'une douleur plus forte égale au corps brûlant ses ardentes chaleurs. Le corps vaincu se rend et lassé de souffrir, ouvre au dard de la mort sa tremblante poitrine, étalant sur un lit ses misérables os, et l'esprit qui ne peut pour endurer mourir, dont le feu violent jamais ne se termine, n'a moyen de trouver un lit pour son repos. Les médecins, fâcheux, jugent diversement de la fin de ma vie et de l'ardente flamme qui même fait le corps pour mon âme souffrir. Mais qui pourrait juger de l'éternel torment? Torment et non pas tourment, qui me presse d'ailleurs. Je sais bien que mon âme n'a point de médecin qui la puisse guérir. Mes yeux enflés de pleurs regardent mes rideaux cramoisis éclatant du jour d'une fenêtre qui m'offusque l'aveu et fait cligner les yeux. Et je me ressouviens des célestes flambeaux comme le lit vermeil de madame fait naître un vermillon pareil à l'aurore des cieux. Je vois mon lit qui tremble. Ainsi, comme je fais, je vois trembler mon ciel, le chalit et la frange et les soupirs des vents passer en tremblotant.
Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes. Ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. Celui qui chante se torture, quel gris en moi, quel animal je tue. Quelle créature, au nom du bien, au nom du mal, seuls le savent ceux qui se turent. Seuls le savent ceux qui se turent. Machado d'or à Collioure, trois pas suffirent hors d'Espagne. Le ciel pour lui se fit lourd, il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours. Et ferma les yeux pour toujours. Au-dessus des eaux et des plaines, au-dessus des toits, des collines, un plein champ monte à gorge pleine. Est-ce vers l'étoile Hölderlin? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Marlowe, il te faut la taverne, non pour Faust, mais pour y mourir. Entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leurs rires, à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile, poussière de flamme, en août qui tombait sur le sol, cette nuit proclame l'hécatombe de Rossignol. Mais que c'est l'univers du drame, mais que c'est l'univers du drame. La souffrance enfante les songes comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes. Ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
La poésie est partout. Brel, Le Plat Pays, la chanson Le Plat Pays a été inspirée à Brel par le poète Jean Villard, dit Gilles, qui décrit dans la Vénoge le parcours d'une rivière, la Vénoge justement, à travers le canton de Vaud, dans sa Suisse natale. Brel, Le Plat Pays.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Arrivé à Paris en 1947, Gilles a ouvert sur la rive droite le cabaret Chez Gilles où Brel a chanté. C'est là, en juillet 1954, que Brel a entendu lire la Vénoge. En 1970, Brel a révélé à son instructeur en aviation, Jean Liardon, également suisse, alors qu'il survolait le lac Léman, l'influence que ce poème a eue sur la rédaction du plat pays. Jacques m'a dit qu'en entendant Gilles dire sa Vénoge, il a pensé « Si quelqu'un arrive à parler aussi bien de son pays, je peux aussi parler du mien ». C'est l'origine de sa chanson « Le plat pays ». Sur la fin de sa vie, en Polynésie, Brel l'a également confié à son ami et médecin Paul Robert Thomas. J'ai toujours été fasciné par un poète suisse qui préférait les lacs et les rivières à la mer. Au cours d'une de nos rencontres, cet homme m'a lu un texte sur un ruisseau qui traversait sa prairie. Ému par cette tendresse territoriale, j'ai eu ce soir-là l'idée d'écrire une chanson sur mon pays. La chanson évoque le paysage de la région d'où venaient ses ancêtres paternels, la Flandre occidentale, qui n'est dotée d'aucun vallonnement. On peut par extension y voir aussi une évocation de la Flandre, voire de la Belgique, dans son ensemble, compte tenu de son relief globalement peu élevé. Chaque couplet correspond à un des points cardinaux et à une des quatre saisons. Le plat pays est l'une des rares chansons de Brel dont il reconnaissait qu'elle pouvait être considérée comme un poème. Avec « Quand on a que l'amour », le plat pays est la seule chanson de son répertoire qu'il continue d'interpréter sur scène à la guitare durant les années 1960. Toutefois, l'album « En scène », CD posthume sorti en 1998, contenant des enregistrements en public inédits, en donne une version inattendue. Jacques Brel ayant décidé de déclamer le texte plutôt que de le chanter. Ernst van Altena adapte pour Jacques Brel le plat pays en néerlandais sous le titre Min Vlakke Vlakke Land.
Un jour le les anges en ont marre. Qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront. Au même signal d'une sentinelle, dans un même battement d'aile, un jour tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes. Sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention, eux qu'on prend pour un garde-pigeon. Ouais, un gang de pigeons. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Quand on reste trop silencieux, c'est même plus dire adieu.
Actualité de la poésie. Porté par un engouement des lecteurs, ce tout petit secteur de l'édition, il s'agit de la poésie, a vu son chiffre d'affaires croître de 17% en 2024. Quoi de plus réjouissant que de tordre le cou à des idées reçues, un 21 mars, journée mondiale de la poésie. Jean-Pierre Siméon, lui-même, poète et directeur de la collection Poésie chez Gallimard, s'en fait une joie. Ceux qui disent que la poésie, ça ne se vend pas, ça me fait marrer, lance-t-il en affirmant que le recueil Alcool de 1913 d'Apollinaire s'est écoulé à plus de 1,5 million d'exemplaires depuis sa sortie en 1966. Cet engouement pour la poésie se vérifie dans les statistiques. Le chiffre d'affaires de ce tout petit segment de l'édition a augmenté de 17% en un an pour atteindre 20,4 millions d'euros en 2024. Au total, 1566 nouveautés ont été publiées en poésie en 2024 et 1,65 million d'exemplaires ont été vendus. Le Printemps des Poètes, le festival national qui se tient jusqu'au lundi 31 mars avec Force Lecture et concours de poésie orchestré par la RATP ou par l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif, Val-de-Marne, contribue à mieux faire connaître ce genre littéraire. Aujourd'hui, les libraires valorisent davantage la poésie et n'hésitent pas à la mettre en avant. François Angelier, dans le monde littéraire, nous fait découvrir Henri Michaud, un ouvrage d'André Gide qui s'appelle « Découvrons Henri Michaud ». Mon but est de le faire un peu connaître à ceux qui seront dignes de l'aimer. Celui qui publie ses mots chez Gallimard, sur un méchant papier jaunâtre émouvant, en juillet 1941, à 74 ans, et recevra le prix Nobel de littérature 6 ans plus tard. Il se nomme André Gide. Celui qu'il projette de faire découvrir et aimer en a lui 41. C'est un Belge de Namur qui, depuis 1923, a publié des livres qu'on lit assez peu à Vichy, récits de voyages comme Équador ou Un barbare en Asie, récits de des voyages, des certitudes et habitudes intérieures tels qui je fus, mes propriétés, la nuit remue, récits d'incursion tels au pays de la magie ou voyage en grande gare à Bagne, Henri Michaud, 1899-1984 et son nom. Découvrons Henri Michaud, un texte tout aussi singulier que son sujet, Gide, en proie à une sorte d'empressement joyeux, ébloui et captivé, nous précède dans l'espace du dedans. Méfions-nous, messieurs, prévient-il, de ces petites choses qui n'ont l'air de rien, encore que jaillies du fond de l'âme. Nous souhaitons que ce petit livre ait le maximum d'écho. À l'effacement méthodique de Michaud et à ses longues investigations, nous dit François Angelier, le poète bruxellois Christian d'Autremont, 1922-1979, une des voix de notre époque, c'est une anthologie qui vient d'être publiée. Ce poète rend l'âme et les armes à 56 ans de ce parcours d'un poète qui sut préserver l'ensauvagement de son cœur et de son verbe. Comme on protège de ses mains la fragile flamme d'un bivouac, l'écrivain Michel Sicard donne une parfaite anthologie, Les Grandes Choses. Publier ce que c'est que l'exil, méditation politique et poétique hugolienne, écrite en 1875, c'est le dernier livre que je vous propose aujourd'hui, publié par Victor Hugo, son titre c'est « Ce que c'est que l'exil ». À l'exil intérieur du mystique répond, nous dit Hugo, celui public du poète. Enfin, le poète Anthony Phelps, poète haïtien, romancier et dramaturge haïtien, Anthony Phelps aurait eu 97 ans le 25 août. Il nous a quittés le 11 mars 2025. Il est mort à Montréal. Il avait reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Je vous lis quelques lignes de son œuvre. « J'ai bu du rhum et de l'eau fraîche. J'ai eu ma part du gâteau de l'espoir. Maintenant que j'ai dit l'essentiel, je dois partir. Au point d'accouplement de la terre et du ciel, j'ai rendez-vous avec la rose pour assister à la naissance de l'amour. » Et puis maintenant, j'aimerais vous faire écouter un extrait, un tout petit extrait d'archives, parce que je crois qu'on va être pris un peu par le temps. Il s'agit d'une conversation entre Elsa Triolet et le poète Aragon.
J'imagine que cette table a dû vous voir cet an dernier corriger beaucoup d'épreuves. Vous avez sorti à vous deux 5 livres.
Quelque chose comme ça.
Elsa Triolet, il s'agit d'une biographie de Tchekhov dans votre cas.
Oui, après le théâtre de Tchekhov, j'ai fait une biographie.
C'est la suite normale.
Oui, évidemment, j'ai eu envie d'expliquer aux lecteurs français ce que c'était que Tchekhov pour que la lecture des œuvres de Tchekhov soit plus aisée pour un lecteur français.
Bien sûr, quant à Aragon, c'est au chapitre poésie qui nous amène. 4 recueils, je crois.
À vrai dire, 3,5. Il y a un livre qui est simplement l'ensemble des articles que j'ai publiés dans l'année, dans les lettres françaises, sur le vers régulier, et plus particulièrement sur le sonnet, qui paraissent chez Haineuse avec une anthologie de jeunes poètes sous le titre Journal d'une poésie nationale. Puis un petit livre de poèmes naturellement réguliers comme tous ceux que je fais, chez Segers, qui s'appelle Mes caravanes, c'est un livre pour la jeunesse. Et puis alors, chez Gallimard paraissent les sonnets, les 31 sonnets de Guy Vic, qui ont été d'ailleurs à l'origine de la campagne que j'ai menée dans l'année, et pour laquelle j'ai fait la préface. C'est pourquoi je dis « et demi ».
Oui,
parce que c'est un livre avec 31 sonnets, dans lequel, personnellement, j'interviens avec une trentaine de pages de préface.
De préface. Mais vous gardez pour la fin le plus important, c'est un recueil de combien? 2000 vers, je crois.
2790, puisque vous désirez qu'on soit exact.
Et régulier, bien entendu.
Des vers réguliers, c'est toujours ce que j'écris. Avec naturellement les irrégularités du vers régulier moderne. Mais les yeux et la mémoire, ce poème qui vient de paraître chez Gallimard, qui est le premier de ses livres qui est sorti, est certainement ce que j'ai entrepris de plus long. Et c'est un peu bizarre même que ça soit tombé l'année où je faisais une campagne particulière pour la défense du sonnet.
C'est-à-dire du poème court.
Oui, mais enfin, les contradictions sont les choses motrices de la vie historique, comme chacun sait, et aussi dans la poésie.
Je crois que ce nouveau recueil, Les yeux et la mémoire, prend en quelque sorte sa source, ses racines, dans un livre d'Elsa Triolet, relativement récent, qui a paru l'an dernier, qui est Le Cheval Roux.
Oui, c'est la lecture du Cheval Roux qui a été à l'origine de cette longue rêverie. Le Cheval Roux est un livre dans lequel s'opposent deux thèmes. D'une part, la possibilité de la disparition de la vie humaine de la Terre à la suite de l'emploi des armes de destruction modernes, et aussi où est exprimée la possibilité contraire du développement de l'homme, de l'amélioration de sa vie de tous les points de vue, même par exemple de la longévité. Et je suis parti dans ce poème également enfin, de l'idée de la destruction du monde, mais à la différence du roman d'Elsa Triolet où je suis mort, quand le roman commence, ici c'est un dialogue entre Elsa et moi. Dialogue mêlé de toutes sortes de diversions d'ailleurs, mais où l'idée principale, outre l'idée de la paix qui est la conclusion du poème, c'est celle de l'homme de l'avenir, comme dans Le Cheval Roux. Seulement, chez moi, l'homme de l'avenir est surtout représenté en fonction de l'idée que je m'en fais, avec le développement de toutes les choses qui sont les meilleures dans l'homme, et particulièrement de l'homme à son meilleur moment, c'est-à-dire quand il est amoureux. Et je vois dans notre monde à nous, les graines de l'homme de l'avenir, non pas dans un homme amoureux, mais dans le couple qui s'aime.
Est-ce que je pourrais vous demander de lire un passage, quelques vers de ce poème? Je sais d'ailleurs que vous en avez lu pour un disque Micro-Sillon qui est édité, je crois, par Pathé Marconi.
Oui, mais pour Pathé Marconi, j'en ai lu pendant 50 minutes. Alors ici, ce sera seulement un échantillon, si vous voulez. Je vous lis, bon, les derniers vers avant, à la fin d'une partie qui s'appelle justement « Pareil à ceux qui s'aiment ». Et dans cette partie, c'est justement là que j'essaye de montrer, enfin, l'aspect qu'aura l'homme de l'avenir. Et comment c'est dans le couple qu'il trouve son point de départ. Car rien, jamais, la cime ou le poème, ni l'art ailé, ni l'azur des problèmes, rien ne fait l'homme et la femme si grands que cet amour l'un l'autre qui les prend. Heureux les gens un jour, pareils à ceux qui s'aiment dans un univers différent. Et naturellement, cette strophe même me ramène au point de départ de ce poème, à l'origine de l'inspiration de ce poème, comme d'habitude, à Elsa.
À Elsa Triolet, que nous n'avons pas beaucoup laissé parler depuis que nous sommes là, pourtant nous sommes venus aussi pour votre livre sur Tchekhov. Je crois que vous avez d'ailleurs d'autres soucis en tête en ce moment.
Oui.
Écoutons, ce sont les bruits de la rue.
Self-control, qu'est-ce que c'est ?
Je pense, comme dans les lycées, mettons, ou dans les grandes surfaces, il y a des self-service. Il y a des personnes qui sont chargées de contrôler à l'intérieur si tout est en ordre, si les plateaux sont remis en place, mettons, et si tout se passe bien.
Si je vous dis le bookmaker, par exemple.
Ben oui, en principe, ça écœure, bien sûr. Hein.
Votre réaction à vous ?
Ben ma réaction à moi, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'odorat, alors je sens pas tellement bien, mais évidemment, quelqu'un qui sent très bien, ça écœure. Le book.
Si je vous dis le bookmaker.
Pourquoi ? C'est parce que vous importez ? Un book.
Ben à votre avis, sinon, le bookmaker.
Moi, je vois pas.
Qu'est-ce que vous ne voyez pas ?
Ben, pourquoi le book vous écœure ?
Alors le marketing, ça serait ?
Mais d'après moi, le marketing, ce serait l'échange de marques dans d'autres puissances.
Et qu'est-ce que c'est le marque ?
Le Deutsche Mark, l'argent allemand.
Sponsorisé, qu'est-ce que ça signifie ?
Ben, on peut penser à poncer, sponser, ou alors sponge, éponge.
Alors autrement dit, sponsorisé, ça voudrait dire ?
Ben, nettoyer.
Qu'est-ce que c'est être in ou out ?
Out, c'est partir au mois d'août, et puis in, c'est le reste du temps.
Et oui, les mots, le sens des mots, les mots sont partout, la poésie est partout. Nous allons terminer cette émission par un poème de Victor Hugo, Demain des lobes, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo, extrait du recueil Les Contemplations, publié en 1856. Charles Baudelaire, enivrez-vous. Il faut toujours être ivre. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il vous faut enivrer sans trêve. Mais de quoi ? Du vin ? De poésie ? Ou de vertu ? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, petit poème en prose, publié en 1869. Il est temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission en avril, pour la quatrième émission. Bonne poésie à tout le monde. Thank you.
Qu'est-ce
ouais,
que tu fais?
Ok, c'est bon. Ah bah j'ai enlevé mon...
Bah non, fallait pas enlever, parce qu'il faut faire la balance.
Mais non, mais c'est...
Et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin.
Never heard sound, boys.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur.